La Causerie Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans La Causerie Sud Radio, le podcast comme tous les vendredis, pour évidemment vous présenter le programme du week-end que vous allez vivre sur Sud Radio, la radio du rugby avec Marius Lefrançois et Quentin Cabanis. Bonjour messieurs.
Bonjour Cyprien, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Et nous sommes à un week-end de Champions Cup et de Challenge Cup, les quarts de finale de ces deux compétitions avec évidemment samedi pour les clubs français, ce sera Glasgow-Toulon à partir de 16h à vivre avec François Trio, toute l'équipe rugby sur Sud Radio, et dimanche le match que toute la planète rugby attend évidemment, pas que française, c'est UBB Toulouse, pareil à vivre sur Sud Radio à partir de 16h, et on va se consacrer principalement à cette rencontre entre Bordelais et Toulousains. Messieurs, c'est sans doute la plus belle affiche de ces quarts de finale puisqu'il y a également Bath Northampton et Leinster Sale. Messieurs, première question, les compositions sont tombées, pas de grosses surprises, pas de gros changements. Jalibert est bien présent, l'alerte au genou, c'était pas grand chose. Le seul changement côté bordelais, c'est Beauchaton qui passe titulaire et Vern Taillefer qui passe sur le banc en troisième ligne, tandis que du côté toulousain, c'est Choco Barrès qui remplace Barassi qui, après sa commotion, n'a pas pu revenir, et c'est donc sur le banc que ça bouge, puisque c'est Théo Ntamack qui fait son entrée. Ils étaient en 5-3 la semaine dernière, le banc toulousain, ils se sont passés en 6-2. Avantage à qui sur les compositions, sur la forme du moment, les forces en présence? Marius, toi, ton choix irait vers
Moi, ce serait surtout sur le... Alors, la forme du moment, c'est compliqué parce que les deux équipes roulent quand même très bien. J'y mettrais un petit avantage, moi, au stade toulousain, je pense. En fait, de par l'expérience, de par je pense, une énorme envie de revanche aussi, et puis de par le fait que tous les cadres sont là. Voilà, c'est un remake de la saison dernière, et puis voilà, mais ça risque d'être un... Enfin, j'espère, parce que ces derniers temps, à part la finale de Top 14, les Toulouse-Bordeaux ont toujours terminé avec plutôt pas mal d'écart pour les gagnantes à chaque fois.
Mais parce qu'on n'a jamais eu de grosses équipes qui s'allient, qui s'affrontaient.
Sauf au quart de, à la demi-finale la saison dernière, l'année dernière.
Mais là, le quart n'était pas, c'était pas non plus 40 points d'écart. Il y avait
38-15, c'est quand même gros.
C'était un gros score, mais c'était pas non plus un score de 40 grains passés comme le dernier match UBB Toulouse, notamment en championnat.
C'est vrai qu'entre 38 et 40, il y a quand même 2 points d'écart.
Non, mais il y avait 40 points de différence. Il y avait pas 38 points de différence.
C'était une gifle historique.
Oui, voilà. C'est que c'était pas serré jusqu'au dernier moment, quoi.
C'est ça.
Là, j'aimerais avoir.
Donc toi, tu irais plutôt vers Toulouse. Est-ce que le fait que ce soit à Chaban, que ce soit à domicile, les Bordelais ont allé tenant du titre en plus de ça, ont un petit avantage selon toi, Quentin?
Bah alors déjà, le fait que ce soit à Chaban, évidemment, je pense que ça va jouer pour cette équipe bordelaise, mais c'est Jean-Baptiste Elissal qui nous disait qu'une équipe comme le Stade Toulousain, elle a l'habitude de jouer ce genre de grand rendez-vous aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, donc lui, il pensait que ça jouerait pas pour grand-chose. Après, je pense qu'aussi, peut-être que le fait d'avoir perdu un deux porteurs, par exemple, pour cette équipe de l'UBB peut jouer, mais en face, t'as Barassi qui est blessé, t'as Capozzo qui est pas là aussi, donc il manque des joueurs quand même, je pense, à des postes clés pour les deux équipes, mais moi je vais mettre une petite piécette sur l'UBB, qui est le champion en titre quand même, et qui en plus joue à domicile, mais il va falloir que ces joueurs fassent quasiment le match de leur vie s'ils veulent pouvoir s'imposer face à cette équipe du Stade Toulousain. Moi, il y a un duel qui me fait un petit peu peur.
J'allais justement demander un peu là où selon vous ça allait se jouer, ça peut se jouer.
Parce qu'il y a un homme qui en ce moment marche sur l'eau. Du côté de l'UBB, un certain
LBB.
Et en face de lui, c'est Teddy Thomas. Tu vois, alors tu te dis que bon, en termes athlétiques, Teddy Thomas peut-être répondre à Bielbiaré parce qu'il a une sacrée pointe de vitesse aussi, mais tu te dis quand même que c'est pas le meilleur défenseur du top 14, Teddy Thomas, et qu'en face, c'est peut-être le meilleur attaquant qu'on a eu de limite dans l'histoire de l'équipe de France de rugby. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Bielbiaré aujourd'hui sur un crochet, sur une accélération,
c'est
il peut déposer n'importe qui.
C'est d'ailleurs les propos du Gomola à la sortie du 8e de finale, en disant c'est très bien ce que fait Teddy Thomas, mais moi je l'attends sur les matchs couperets, sur les matchs qui comptent, et là l'affrontement, le duel face à LBB pour Teddy Thomas, c'est l'un des matchs qui compte. Il est venu au Stade Toulousain pour ce genre de rencontre. C'est là-dessus que tu vas, c'est pas là-dessus que ça va jouer, si, selon toi le quart de finale peut jouer là-dessus?
Non, alors il peut se jouer là-dessus parce qu'il peut se jouer à un essai, il peut se jouer sur une erreur défensive, mais il peut aussi se jouer sur un Damien Penaud qui est pas non plus le centre le plus expérimenté de la planète, surtout à cette position.
Temps, ouais,
dans un match de ce niveau-là, va falloir répondre présent. En face, Gourgue, bah c'est un talent quand même très très solide. Choco Barrès, ça peut être un poison. Donc voilà, il va y avoir des duels quand même intéressants. Je pense que dans le Biel-Biarré et Teddy Thomas, va y avoir un petit avantage à Biel-Biarré, mais dans un Choco Barrès-Penaud, peut-être que l'avantage est inversé.
Bon, et donc du coup, d'autres duels que tu as repérés, toi peut-être Marius, sur cette rencontre.
Moi j'aurais plus mis en duel Moefana Choco Barrès.
Ouais, bah là par contre, quand ça tape dedans, il y a un moment.
Je pense
où...
que ça va être énorme.
Ah, bah,
parce que les
séisme.
Deux, ça peut être des poisons. Défensivement, ils sont très costauds. Ça fait du ravage.
À peu près le même style de jeu, en effet, entre les deux. Bon, peut-être Moefana un peu plus technique que Choco Barrès.
Après, on tourne tous autour du pot, mais il y a un duel que, évidemment, toute la planète rugby
c'est
a
attendre.
Donné,
ouais.
C'est le duel de numéro 10.
Exactement.
Ah, j'ai cru que tu allais parler peut-être de Movaca Lamotte.
Ah, mais Movaca Lamotte, mine de rien, peut-être une place de numéro 2 en équipe de France.
Movaca contre le sanglier de Pessac. Comme l'appelait Jean-Baptiste Dubié.
Non, mais oui, attention, parce que Lamotte, il est sur une forme aussi assez exceptionnelle.
Jalibert Ntamack, c'est
mais
ce
le Jalibert Ntamack, tout le monde l'attend, même si je pense qu'aujourd'hui, Jalibert a une longueur d'avance. Mais Ntamack est un joueur de caractère, un joueur de talent, donc je pense qu'il aura aussi à cœur de montrer pourquoi c'était lui le titulaire avant de se blesser en équipe de France. C'est pas n'importe qui, Ntamack. Ça reste un joueur exceptionnel à son poste, et je pense que là, il aura à cœur de prouver, donc ça peut aussi taper assez fort entre les deux hommes. Ntamack défensivement est un cran au-dessus de Jalibert, même s'il a fait beaucoup de progrès sur ce plan-là. Mais ça peut aussi taper entre les deux hommes.
On a vu en plus que le Midi Olympique a fait un sondage avec les,
ouais, oui,
les coachs, Ntamack or était toujours, Yannick Bru et Hugo Mola.
Et il y a 6
pour Ntamack, 4 pour Jalibert et 2 qui se prononcent pas.
Dont ouais. Un dans les deux qui se prononcent pas, un qui dit qu'en fonction de l'adversaire,
ouais,
il choisirait soit Ntamack soit Jalibert.
C'est une réponse suisse. Hein,
c'est une réponse
non, parce qu'il dit que c'est une réponse comme à l'image des Sudaf et d'Erasmus qui fonctionnent comme ça.
Il y a un moment là, on pose une question,
on a
l'idée de se mouiller, c'est tu la question.
Mais non, il se mouille pas, de toute façon, c'est anonyme.
Bah oui, mais bon,
mais justement,
l'intérêt de la question, c'est
je vais vous demander.
T'es en train de monter une équipe aujourd'hui, tu prends Jalibert ou tu prends Romain Ntamack, c'est ça la vraie question.
Mais alors, est-ce que au-delà des individualités Jalibert et Ntamack, est-ce que c'est pas plutôt la charnière qu'on doit prendre en compte
si.
Dupont et Ntamack contre Lucu Jalibert, pour vous, laquelle de ces deux charnières a, on va dire, un petit avantage sur l'autre?
Moi, je vais rester sur le Stade Toulousain. D'abord, d'une part, parce qu'évidemment, bah, Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde, donc déjà.
Est-ce qu'il l'est actuellement?
Oui, il l'est toujours. C'est Antoine Dupont, ça reste un ovni.
Mais sur les dernières performances, tu mets Antoine Dupont au-dessus d'un Biel-Biarré?
Bah, c'est dur de comparer.
C'est pas le même poste.
Mais sur le même poste, le meilleur.
On parle de meilleur joueur du monde, ça prend tous les postes.
Tu vois, oui, mais c'est-à-dire que
Biel-Biarré
va pouvoir changer un match sur une étincelle, là où Dupont va changer tout le match de A à Z en fonction de sa prestation.
Dupont va toucher 50 ballons, là où Biel-Biarré va peut-être en toucher 2 ou 3.
Ouais, mais si sur les 3 qu'il en touche, il te marque 3 essais.
Oui, mais sur les 50 que Dupont en touche, il en fait marquer 40.
Bah, s'il fait marquer 40.
Non mais tu comprends ce que je veux
mais
dire.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un.
Il y en a un qui peut vraiment beaucoup plus impacter la décision d'une rencontre que l'autre. Ça va être des
facteur X.
Ouais, voilà, c'est ça, des éclairs.
Mais l'en faut.
Mais
bien sûr, mais non, moi je vais rester sur l'avantage.
On peut pas dire qu'un Lucu ne va pas non plus pouvoir faire marquer 40 points à son équipe, c'est possible aussi.
Si, hein. Peut-être, mais c'est... Dupont reste au-dessus de Lucu,
oui,
pour moi. Et alors là où je pouvais avoir un
point Jalibert
un petit peu
pas
plus, ouais, un petit peu plus de réserve, c'était sur Ntamack, mais j'ai trouvé que ces deux derniers matchs, il a quand même été costaud, ouais. Il revient pas mal. Donc voilà, moi je vais partir
moi,
là-dessus.
Sur les charnières, je mettrais un statu quo. Tu vois,
ouais.
c'est pas. Mais j'estime qu'aujourd'hui, Jalibert.
Tu parlais de quoi sur les managers de tout à l'heure?
Laissez-moi mouiller. Laissez-moi dire pourquoi. Parce que j'estime qu'Antoine Dupont est certes au-dessus de Maxime Lucu. Mais je pense qu'aujourd'hui, Mathieu Jalibert est au-dessus de Romain Ntamack.
Et
ça s'équilibre.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça.
Donc là, on est d'accord qu'il n'y a aucune prise de risque de ton côté, Quentin. Tu critiques les autres,
j'ai fait pareil. Dupont était meilleur.
Non mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'Antoine Dupont n'a plus joué Bordeaux depuis la finale du championnat de France de 2024.
Et je pense qu'il y en a deux, trois qui ont la rancœur. Hein.
Et je pense que lui, voir ses copains éliminés l'année dernière en demi-finale,
demi-finale, elle a fait beaucoup de mal, je pense
qu'ils ils ont envie
l'orgueil.
Ils ont envie d'en découdre.
Rappelez-vous l'interview d'Ntamack après le match.
Bah oui.
Non, c'est sûr.
Il était tendu.
Même Antoine Dupont à la sortie d'un match qui dit oui, ça va ressembler à une revanche. Ils ont tous hâte d'y être.
Moi, je pense que là où le match va se jouer concrètement, ou en tout cas l'un des secteurs où ça va se jouer, c'est là où le duel va être très intéressant. C'est sur la troisième ligne, c'est sur les ballons au sol et notamment le duel Jack Willis, François Cross et Anthony Gelon face à Marco Gazzotti, Pierre Bouchaton et Cameron Wauquiez. Laquelle de ces troisième ligne là un meilleur rendement au sol? Je pense que c'est clairement Toulouse.
Ouais, en densité dans les physique. Ailes, dans les airs, lequel a le meilleur rendement? Parce que Wauquiez aujourd'hui est quand même très très fort.
Bien sûr.
Dans un alignement.
Et c'est aussi pour ça qu'ils ont changé Verne Taillefer et Bouchaton. C'est que Bouchaton a un profil plus aérien. Donc je pense qu'ils vont vraiment accentuer sur la touche, sur le contre en touche. Parce qu'au final, du côté de Toulouse, il y a quand même, c'est assez lisible. Il y a trois sauteurs, on va dire, attitrés. François Cross, Thibaut Flamand et Anthony Gelon. Derrière, ça sort, c'est peu, c'est rarement Meafou, c'est rarement Jack Willis. Alors que du côté de Bordeaux, du Coleman, du Palu, du Cameron Wauquiez, du Bouchaton, ça peut sauter, ça peut contrer. Et donc du coup, il y a cette adaptation qui va être intéressante. Mais en tout cas, sur le jeu au sol pur, je pense que les Toulousains ont une longueur d'avance. Jack Willis est ce qui se fait de mieux actuellement dans le monde. Et ce secteur-là risque d'être très important, Marius.
Bah, c'est quand... C'est pareil, je pense que je vais donner mon avantage à la troisième ligne toulousaine parce qu'on a trois top joueurs très expérimentés. En face, on a Wauquiez. Bon, moi, je suis pas un grand fan de Cameron Wauquiez, mais étant objectif, ça reste quand même un très bon joueur.
Cette année, Cameron Wauquiez, c'est quelqu'un. Bien sûr, le Cameron Wauquiez du Racing était extrêmement décevant, mais depuis qu'il est revenu à Bordeaux, il fait une saison quand même très 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 intéressante.
Gazzotti, ça roule bien, mais ça reste jeune. C'est un futur top joueur, je pense, mais on peut pas encore dire que c'en est un.
Et Bouchaton, pour se prendre un jolon.
Bouchaton, c'est un bon joueur, mais il n'est pas à la même classe que les cinq premiers.
Je pense qu'il est un peu en dessous des cinq autres. Alors, ça reste un bon joueur.
Ouais, c'est un très bon joueur.
Mais je pense que Cross, Jolon, Willis, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent aligner quelque chose qui lutte avec cette troisième ligne-là.
Toulouse, c'est la crème de la crème du troisième ligne. Quoi.
Justement, messieurs, on parle d'un match qui dure 80 minutes. Les bancs vont compter ce dimanche.
Il y a du bon monde aussi.
Les bancs de Bordeaux, quand ils ont accéléré lors du match en huitième de finale, on pense à Big Ben notamment qui fait une entrée tonitruante. Quel banc de ces deux formations entre Bordeaux et Toulouse a un net avantage? On va redonner les bancs rapidement.
Toulouse, c'est quelque chose.
De tête, je crois qu'il y a Marchand, Bay, Marclair, Brennan, Banos, Entamac, Graou et Kinghorn. Alors que du côté de Bordeaux, il me semble que c'est Barlow,
Perchaud, Tammy Ifuna, Jacobs, Verne Taillefer, Mathieu, Retière, Russ.
Messieurs, un avantage peut-être pour l'une ou l'autre.
Moi, je vais mettre à Toulouse quand même. Alors, je pense que devant, ça se tient. Parce que sur la première ligne, en tout cas, parce que Tammy Ifuna, il est sur une forme exceptionnelle. Barlow reste un très bon joueur. Perchaud, c'est pas mauvais non plus. Mais en face, Merkler, Bay, Marchand, ça aurait pu être titulaire.
Je sais pas.
Après, Bay est pas au meilleur de sa forme. Ouais. Marchand, faut voir dans quel état il est. Mais, et puis Merkler, je pense qu'il est au niveau d'Aldeguerri, voire meilleur. Et puis derrière, Graou, Kinghorn, Entamac, Banos. Du moins, Entamac et Banos, c'est devant. Mais voilà, on se comprend. Mais
Graou et Kinghorn, c'est très, très...
Derrière, il n'y a pas de débat.
Graou-Kinghorn contre Reus, Retière.
Tu plutôt Bordeaux ?
Ouais. Moi, je vais partir plus sur Bordeaux parce que Cyril Bay n'est plus dans la forme de sa vie. Marchand pouvait faire rééquilibrer l'affaire, mais Barlow, ça reste quand même assez costaud. Tammy Ifuna, il n'y a rien à dire. Verne Taillefer, c'est très costaud. Mathieu, ça fait son premier match international, c'est très très fort. Alors que bon, Banos est en forme, mais voilà, c'est un peu à l'image de Banos. Pour moi, j'ai dit la même chose sur Gazzotti, des Banos Entamac, c'est sûrement du top player à venir, mais ça l'est pas encore.
Ils seront là à ce niveau-là dans peut-être 3 ans, tu vois.
À noter que par exemple, Banos Entamac prennent la place d'un joueur comme Alexandre Rouma, qui n'est pas sur la feuille, qui n'est pas dans le groupe.
C'est dire le niveau des garçons.
C'est pour
aussi,
dire le niveau du groupe toulousain qu'il y a dans le
Théo Entamac, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi un sacré
ça va mieux. Ça va vite et c'est dense. Hein.
Ouais, mais ça va mieux parce que au tout début, c'était pas trop ça. Et là, ça va beaucoup mieux.
Il a pris de la maturité aussi.
Mal à l'impact, il a pris en densité.
Il fait des courses aussi
mieux.
Des fois quand même.
Bien sûr.
Bon, vous l'aviez dit, d'un côté Toulouse pour Marius, d'un côté Bordeaux pour Quentin sur le résultat final.
Alors que là, j'ai dû dire avantage à chaque fois.
Mais est-ce que vous avez le joueur qui, selon vous, dans le 15 type, qu'il faudra particulièrement surveiller pour vous ce dimanche?
Pour moi, ce sera Romain Tamac qui va forcément avoir. avoir déjà une envie de revanche par rapport à la demi-finale de l'an dernier. On l'avait, comme on l'avait vu, très très remonté, ce qui est assez rare de voir une réaction comme ça déjà de sa part, puis de la part de Toulousains en règle générale, qui sont plutôt pas dans ces attitudes-là. Il va vouloir aussi faire... Bah, il s'est fait siffler quand même lors du dernier match, donc je pense que ça, il l'a gardé dans un petit coin de sa tête et il a bien fait. Et puis, il déroule mieux là depuis deux matchs. En top 14, il n'avait pas été si mauvais. Là, contre Bristol, il fait un match très correct. Donc voilà, moi je pense que Ntamack va vouloir revenir, va vouloir avec tout ce qu'ils ont pris dans la tête là avec Jalibert sur leur duel, etc. Comme Jalibert avait plus la hype cette saison, que lui enchaînait les blessures. Là, ça roule mieux, ça va mieux. Il va vouloir tout manger. Et je pense que c'est ce joueur qu'il faut suivre.
Quentin, toi, tu as un joueur dans les 2-15 que tu voudrais faire sortir particulièrement?
Alors, il y a un joueur que je vais regarder plus particulièrement, mais je pense qu'il a beaucoup à gagner dans cette rencontre, parce que ça va être forcément très observé, c'est Damien Penaud, celui qui a été un petit peu oublié de la dernière du dernier tour en destination. Je pense que c'est le genre de match où il doit se montrer, dire que regardez, je fais partie des très très grands de ce sport. Alors là, il va jouer au centre, donc c'est peut-être pas le meilleur moyen pour lui de se montrer, mais dire que voilà. Vous avez vu, en face, il y a Penaud, il y a Ntamack, il y a Dupont, il y a les mecs de l'équipe de France. Et ben, je suis à ce niveau-là, voire plus.
Et évidemment, il veut se rappeler aux beaux souvenirs du sélectionneur pour d'autres postes, pour la polyvalence. Mais si l'autre match du club français du week-end, c'est Glasgow-Toulon dans l'équipe toulonnaise. Quelques changements puisqu'il y a le retour de Saint-Zel en tant que titulaire, mais surtout le retour de Baptiste Serin sur le banc, avec également Ferté et Jaminet titulaire au poste de 15, puisque Demont s'est fait les ligaments croisés, malheureusement pour lui. Comment vous voyez ces Toulonnais du côté de Glasgow? Est-ce qu'ils peuvent réaliser l'exploit? Parce que là, ce serait véritablement un exploit d'aller gagner à Glasgow, une équipe qui tourne plus que bien cette saison, les Écossais. Quentin, est-ce que l'exploit est possible? Voilà, merci Quentin. Marius, est-ce que l'exploit est possible?
Oui.
Oui, l'exploit est possible. L'équipe alignée est belle, hein, mais le problème, c'est pas les.
C'est le rendu.
Le problème, c'est pas les joueurs
non,
affichés.
C'est
le rendu, parce que sur le papier, l'équipe, elle est superbe. Mais dans les faits, voilà. Mais bon, après, quand Ben White joue en Écosse, c'est quelqu'un d'autre.
Il fait un bon match la semaine dernière, Ben White.
Il fait pas un mauvais match.
Non, il fait un bon match face aux Stormers. C'est quand même l'un des joueurs toulonnais qui a été vraiment plutôt bon sur l'ensemble de la rencontre. Toi, Marius, t'y crois?
Moi, j'y crois. En fait, je pense que les Toulonnais, ils ont absolument plus rien à perdre. Ça va être très compliqué d'aller se qualifier dans le top 6. On a beau dire qu'ils sont pas si loin, ça roule pas. Effectivement, le rendu est pas bon en top 14. Il y a toujours pas eu de confirmation. Là où il y a eu une confirmation la semaine dernière, parce que les Stormers, c'était pas des rigolos, quoi.
Ils ne nous ont pas non plus convaincus dans le jeu, quoi, les Toulonnais.
Non, mais dans l'intensité, dans l'engagement, ils ont trouvé quelques valeurs.
Je suis pas sorti de ce match frustré comme je sors depuis maintenant une dizaine de matchs du côté de Toulon. Là, il y avait vraiment l'impression qu'ils sont allés au bout, qu'ils avaient des phases d'attaque et de défense constructives à l'image de la dernière action. Ils ont peut-être un peu de chance, mais de toute façon, il en faut. Ils en ont tellement pas depuis plusieurs matchs que maintenant c'était à leur tour. Donc, moi, je pense que ce statut-là, du fait qu'ils ont absolument rien à perdre et que ça peut être potentiellement ce qui peut sauver leur saison. Parce que, après, tu risques de prendre, t'as de très grandes chances de prendre le Leinster en demi. Je ne pense pas que Toulon ira au bout. Mais d'aller faire une demi de Champions Cup, ça pourrait vraiment leur faire du bien. Et puis, en huitième de finale, Glasgow, c'était pas le Glasgow de d'habitude, hein. Alors, les Bulls aussi, ils sont arrivés fort,
catastrophique.
Ils avaient battu Toulouse sous un temps catastrophique. Et ils ont l'habitude pour des Écossais de jouer sous un temps catastrophique. Et ça a pas déroulé tant que ça. Donc, nous verrons bien, mais je pense, je sais pas si je dirais que Toulon est favori, mais je pense qu'ils ont vraiment une petite carte à jouer.
J'allais pas dire favori, mais ils ont, oui, une carte à jouer.
Une certitude.
Mais il faut qu'ils produisent un rugby différent que ce qu'on a vu en top 14 sur les dernières semaines. C'est une évidence.
C'est simple, ce match sera à vivre samedi à 16h sur Sud Radio, évidemment, avec François Trio. Challenge Cup, puisque ce soir, dans quelques heures, là, après, pendant la Pro D2 avec Alexandre Priam, puisque ce podcast est enregistré ce vendredi, vous pourrez également retrouver Ulster La Rochelle. Messieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste un petit pronostic sur ce Ulster La Rochelle. Est-ce que vous voyez la jeunesse rochelaise réaliser un nouvel exploit à l'extérieur et une victoire après celle de Newcastle la semaine dernière? Est-ce que c'est possible, Marius?
Non, de mon côté, ce sera un non, puisque cette jeunesse rochelaise a montré de belles choses sur d'autres compétitions que le top 14 cette saison, notamment leur déplacement justement aux Stormers, où ils avaient perdu, mais avec du panache, et puis là, cette victoire à Newcastle. Malheureusement, l'Ulster, c'est pas Newcastle. L'Ulster, ça déroule de mieux en mieux. Et donc, moi, je vais rester sur l'Ulster. à la maison.
Je suis assez d'accord, hein, quand même, des sacrés joueurs dans cette équipe de Ulster. Tu vois, tu penses à Jacob Stockdale, tu penses à Nathan Doak. C'est quand même des joueurs avec beaucoup de talent.
McCloskey, en effet, oui.
Ça peut faire mal à cette jeunesse rochelaise. Mais ils ont prouvé hein, qu'ils se battraient jusqu'au bout. Donc je pense qu'il ne va pas y avoir une raclée. Et qu'ils vont partir encore une fois avec les honneurs, comme ils avaient fait finalement en Afrique du Sud. Voilà, c'est une jeunesse qui est quand même assez intéressante. Il y en a qui vont encore se montrer. On peut penser à Kirill Freint, le russe là, qui est quand même aussi intéressant en troisième ligne. Lucas Andjiseramachi qui est quand même en train de monter sérieusement en puissance, le garçon qu'on est en train de finalement de découvrir un peu plus cette saison. Donc il y a des choses intéressantes, mais quand tu arrives avec 9 avant, je crois.
Il y a beaucoup de premières lignes.
Ouais, non, mais c'est ça, t'as 9 premières lignes, je crois, sur la compo. Un truc comme ça, tu commences avec Alexandre Kuntelia, pilier droit en deuxième ligne. Donc tu te dis que, bon, a priori, ça va taper fort.
Ça va taper fort, en effet. L'autre match du club français, c'est Montpellier-Connard. Ça sera à vivre samedi à 13h30. Est-ce que les Montpelliérains peuvent réaliser l'exploit également? Ils ont coché cette compétition pour évidemment rafler un titre cette saison, pour valider leur bonne saison. Est-ce que les Montpelliérains peuvent le faire, Quentin?
Moi, je pense que les Montpelliérains, ils peuvent le faire. Ils peuvent même aller chercher le titre au bout de la compétition. Pour moi, ils font partie des favoris, surtout quand on voit ce qu'ils produisent en top 14. Là, ils font encore une fois une belle, ils alignent une belle équipe quand même pour essayer d'aller faire un résultat avec Price et Miotti à la charnière. Tu vois, Banks
là, ils ont mis une équipe type. Hein,
voilà. Là, ils ont mis une équipe où ils ont dit bon, maintenant,
on joue la compète, quoi.
Et voilà, il reste plus beaucoup de matchs pour aller au bout. Dans 3 matchs, on peut être champion. Autant y aller à fond, et je pense qu'ils vont le faire.
Ouais. Marius ? Ouais, moi je suis d'accord. En plus, ils ont terminé premier de la phase de poule. Meilleure équipe, ils ont pris ça au sérieux du début à la fin. Je pense que ça va dérouler. Et puis le Connard, c'est costaud.
Un peu la semaine derrière, je crois.
Ouais, exactement.
Et là,
le Connard, ça reste costaud, mais c'est à la domicile. Donc voilà, moi je les vois.
Montpellier est une équipe
favori.
Très sérieuse.
L'équipe est une équipe très sérieuse cette saison.
Moi je les vois aller au bout.
En tout cas, ils joueront le Connard samedi. Et si jamais il y a le victoire, ce sera soit Zèbre de Parme contre Newport et l'autre quart de finale de l'autre côté pour Ulster La Rochelle. C'est Trévise, Exeter. Merci beaucoup, Marius Louis-François. Merci beaucoup, Quentin Cabanis. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les informations sur sudradio.fr, sur l'application Sud Radio. Et là, dans quelques minutes, peut-être, ou alors, si vous écoutez ça samedi, vous vous branchez pour écouter le rugby, la Champions League.
C'est vrai qu'on a dit n'importe quoi sur La Rochelle.
Et sinon, là, tout de suite, la Pro D2 dans quelques instants. À vivre sur Sud Radio avec Alexandre Priam.